Radio Kapi.
En direct de Kinshasa, il est très précisément 18h. Voici un nouveau journal sur Radio Okapi. Pas d'eau potable depuis une semaine pour plus de 3000 détenus à la prison centrale de Mounzenze à Goma. Les responsables de cette prison redoutent des maladies hydriques si rien n'est fait au plus vite. Manifestation des motocyclistes de Mbujimayi ce lundi matin contre la hausse de prix du carburant. À la base, la rareté de ce produit sur le marché. Cette situation a créé du coup des remous sociaux sur la ville. Notre invité, c'est le directeur de programme du groupe d'études sur le Congo, Joshua Walker, revient sur le rapport dans lequel son organisation parle du rôle de l'État dans la gestion des conflits coutumiers dans la région du Kasaï. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Madame, Messieurs, bonsoir. Au micro, Pascal Masserica, mise en onde d'Alengoy. À Goma, plus de 3000 détenus de la prison centrale de Mounzenze n'ont pas d'eau potable depuis une semaine. Les interventions de quelques camions citernes pour ravitailler la prison ne répondent pas aux besoins des prisonniers. Les dirigeants de cette prison redoutent des maladies hydriques si rien n'est fait dans l'immédiat. Le point de la situation avec vous, Gabriel Ouaménia.
C'est depuis plus d'une semaine que l'eau de la régie des eaux ne coule pas sur les robinets de la prison centrale de Mounzenze, affirment les sources anonymes. Les quelques interventions ponctuelles pour pallier à cette carence d'eau sont parfois appuyées par quelques camions citernes qui alimentent les tanks de la prison avec l'appui de quelques détenus. Cette situation suscite déjà beaucoup d'inquiétudes parmi les responsables de cet établissement pénitentiaire. Ces derniers disent craindre inévitablement l'explosion des maladies diarrhéiques au sein de la prison pendant cette période de la pandémie, alors que les cas de décès ne font qu'augmenter dans les différentes cellules de deux principaux blocs de cet établissement. Quelques sources proches de la prison précisent que les autorités sanitaires de la zone de santé de Karisimbi sont informées de l'acuité de la situation, mais au stade actuel, rien n'est encore fait, alors que le nombre de détenus ne fait qu'augmenter jour après jour. Selon les statistiques présentées par la prison, sur plus de 3000 détenus de la prison, il n'y a que 582 condamnés, dont 50 femmes. Goma, Gabriel Ouaménia, Radio Okapi.
En Mbujimayi, par contre, l'eau potable a coulé hier dimanche au robinet dans la ville après la réparation de la ligne haute tension qui alimente la régie des eaux. Deux poteaux de cette ligne qui étaient tombés le 31 décembre dernier suite aux érosions avaient endommagé les machines de la centrale hydroélectrique de Tiala. Les travaux ont été menés par l'entreprise Énergie du Kasaï avec le financement de la régie des eaux. Enerka demande par conséquent la régie des eaux de payer les factures d'eau potable pour lui permettre de réparer les pannes en temps réel. En Mbujimayi, des motocyclistes ont manifesté ce lundi matin contre la hausse de prix du carburant. Le litre d'essence qui s'est vendu la semaine dernière à 5000 francs congolais coûte actuellement 7000 francs congolais. À la base, la rareté de ce produit sur les marchés. Cette situation a créé du coup des remous sociaux dans la ville. Explication d'Esther Dalafina.
Les importateurs des produits pétroliers donnent quelques raisons pour justifier cette hausse de prix du litre d'essence. Ils évoquent la hausse de prix à l'achat de cette marchandise au niveau de Lubumbashi, le manque de locomotives pour tracter ces wagons citernes partis de Lubumbashi vers Mweneditu et le manque d'autres wagons pour charger les fuites de carburant. Kaluchi Tenda, président de l'Association des importateurs des produits pétroliers Apicor en sigle.
Il n'y a pas de carburant. Il n'y a pas de locomotive qui peut faire la traction de ces wagons. Alors, il y a des gens qui ont des marchandises, mais il n'y a pas de wagons à acheter.
Le représentant de la Société des chemins de fer du Congo, SNCC Mbujimayi, affirme qu'il y a à ce jour 14 wagons de carburant sur les réseaux SNCC entre Lubumbashi et Ilebo, dont 8 à Lubumbashi. Justin Mbouyi.
Concernant les 8 wagons qui sont à Lubumbashi, toutes les dispositions sont prises pour que tous ces wagons partent par le premier moyen. Les autres wagons sont en cours d'acheminement vers Mweneditu. Et d'ici 4-5 jours, tous ces wagons vont arriver à Mweneditu et le problème de carburant sera décanté au niveau de Mbujimayi.
Signalons que cette situation a haussé le prix des transports sur la ville et de quelques denrées alimentaires. Esther Dalafina, Mbujimayi, Radio Kapi.
Non loin de là, les habitants de la ville de Kananga au Kasaï central s'indignent de rester dans le noir depuis le début du mois de février, alors qu'après le passage du président Félix Tshisekedi Tshilombo, la SNEL avait desservi la ville pendant le mois de janvier. L'entreprise avait dit avoir acquis 3 nouveaux groupes électrogènes qui lui permettaient ainsi d'augmenter sa production et de réduire le système de délestage. À Kananga, une correspondance de François Kadima.
La ville de Kananga vit sans électricité de la SNEL depuis le début de ce mois de février. Alors qu'il y a un mois, la population, du moins celle qui en bénéficie, avait constaté une électricité en permanence après le passage du chef de l'État dans la ville. Pour le moment, les ampoules ne s'allument pas, même pour quelques heures comme par le passé. La population s'inquiète.
La SNEL envoyait les courants régulièrement. C'est comme si le chef de l'État est parti avec les courants.
Le cadre des concertations de la société civile qui s'indigne de la situation indique avoir échangé avec les responsables locaux de la SNEL par rapport à cette situation. Justin Chibangou de la gouvernance économique au sein de cette structure.
Les moteurs avaient tourné 24 sur 24, bien que le chef de l'État aurait promis que la subvention viendrait, mais jusqu'à son retour, aucun litre de mazout n'était arrivé donc à la SNEL et que la SNEL Kananga a fait tourner les moteurs sur base de son carburant propre.
Lors de son passage à Kananga, le directeur général de la SNEL avait indiqué que la société a acquis 3 nouveaux groupes pour desservir la population. Le courant qui était visible sur la ville provenait de ces machines qui étaient pendant une période de rodage d'un mois. Par rapport à la situation actuelle, contacté, le directeur provincial de la SNEL a expliqué à Radio Capi qu'il n'y a pas de carburant pour alimenter les groupes thermiques qui attendent l'appui de Kinshasa. De Kananga, François Kadima, Radio Capi.
Dans un autre chapitre, à Bukavu, chef-lieu du Sud Kivu, 3 personnes d'une même famille ont été assassinées hier soir à Tshikonyi par des bandits armés dans le quartier Kasha. La nouvelle est confirmée à Radio Kapi par le bourgmestre de la commune de Bagera. Le récit de Rachel Kiesembangu.
Président, j'ai regret de constater que les bandits sont arrivés et ont abattu les victimes sans autre forme de procès. Le père sentinelle de son état n'était pas présent. Les personnes tuées sont toutes des femmes, respectivement âgées de 70, 50 et 22 ans. C'est une maman, sa belle-mère et sa fille. La fille de 22 ans laisse derrière elle un bébé de 2 mois. C'est ce qu'affirme Patience Bengeya, bourgmestre de la commune de Bagira.
Un groupe de personnes armées est apparu chez monsieur Moïse, qui est sentinelle en ville, d'ailleurs il n'était pas présent. Ils ont retiré sa mère, sa femme de 50 ans et sa fille de 22 ans. Ils les ont retirés dehors et ils ont tiré dessus autant la vie. Je ne sais pas de quoi réellement il est question.
Un regret pour la société civile urbaine de Bukavu d'enregistrer régulièrement des cas d'insécurité dans la ville. Jackson Kalimba, président.
J'ai un regret de constater que l'insécurité est devenue monocourance dans la ville. Cela prouve à suffisance que les prévus de sécurité ont passé développer des mécanismes pour lutter contre l'insécurité au niveau de la ville.
Signalons que le 24 janvier dernier, 3 armes AK-47 et 114 munitions ont été ramassées dans un champ, toujours dans ce même quartier. Bukavu, Rachel Kessé, Radio Okapi.
L'interdiction des barrières au point chaud de la ville de Kindu n'est pas respectée, contrairement à la décision qui avait été prise récemment par le gouverneur intérimaire du Maniema. C'est le cas notamment de l'axe Kindu-Kibombo. Les usagers de ce tronçon routier demandent au gouverneur d'assurer le suivi de cette décision. L'un d'eux s'est confié à Florence Kizalunga.
Les barrières existent toujours. Les militaires sont là. Ils demandent toujours la ration militaire à toutes les barrières possibles. Je suis sorti de Kindu, Kibombo, Kibombo, Kindu. À l'aller comme au retour, vous payez la ration militaire. Comme le gouverneur avait dit au départ, nous on se disait qu'on est soulagé. C'est une décision, mais la décision n'est pas respectée. Les militaires sont là. Ils exigent la ration militaire dans toutes les barrières. Vous ne pouvez pas traverser la barrière si vous ne donnez pas la ration militaire. Et on se demande à quoi bon la décision du gouverneur de supprimer tous les militaires. Ils sont là, ils demandent de l'argent.
C'est que vous aussi, vous avez payé ça?
J'ai payé dans toutes les barrières. À partir des 37 kilomètres, ils sont là. Partout où ils étaient, ils sont toujours. Nous demandons au gouverneur de faire la vérification, de les faire sortir de là. Ils sont là, que lui-même descende, qu'il supprime. Nous demandons au général des militaires, des FARDC, d'aider le gouverneur à mettre en application la décision de faire sortir tous les militaires qui sont sur les barrières.
Revenons au Nord Kivu, à Goma précisément, où 10 leaders de groupes armés favorables à la reddition ont reçu ce lundi matin leurs attestations de démobilisation. C'était à l'issue d'une journée de sensibilisation sur le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Il y avait aussi des cadres de l'administration territoriale, des chefs coutumiers et des délégués de la société civile. Le compte-rendu de Bernard Danyangi.
Cette cérémonie marque le lancement officiel des opérations de démobilisation et désarmement communautaire des groupes armés au Nord Kivu, indique le vice-gouverneur. Ce qui, pour lui, permet désormais aux autorités de l'état de siège à s'occuper des forces rebelles réfractaires à ce processus. Le commissaire divisionnaire Rémi Ekoukali Popo.
C'est le moment que nous attendions, surtout nous les animateurs de l'état de siège, quand le PDD RCS s'occupe de rendu. Nous avons les coudées franches pour pouvoir faire la guerre avec celles et ceux qui refusent l'appel du chef de l'état.
S'il félicite le lancement de ces opérations, les participants estiment qu'il y a encore des préalables pour rendre plus efficace l'approche de DDR communautaire. C'est entre autres avis de Jean-Claude Bambanzé de la société civile de Rutshuru.
Quand quelqu'un se rend, vous lui remettez un certificat. Est-ce que c'est vrai que c'est démobilisé? Oui, il a seulement remis l'arme. Il faut travailler sur les questions qui lui avaient permis d'intégrer les groupes armés et avoir un temps suffisant pour l'éducation civique et morale, voire même idéologique.
L'activité de ce lundi lance en même temps l'opération d'identification et d'orientation de quelques milliers d'ex-combattants rendus hébergés jusqu'à présent dans les centres de Mubambiro et de Rumangabo, disent les responsables de PDDRCS. Goma, Bernard Dengangi, Radio Kapi.
Autre nouvelle en plus bref, trois rebelles du groupe ADF ont été arrêtés hier dimanche après-midi par les FARDC lors d'une patrouille dans la vallée de Mwalika, territoire de Beni. Selon le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord, ces rebelles de nationalité tanzanienne avaient été recrutés par un habitant de Butembo pour travailler dans une mine d'or de la région. Le capitaine Anthony Mwalushai affirme que ces rebelles sont mis à la disposition des services spécialisés des FARDC. Au Congo central, on apprend que les sous-traitants de la société pétrolière Perenco ont repris le travail hier dimanche dans la matinée. Pendant 4 jours, en effet, ces agents avaient observé un arrêt d'activité pour exiger la suppression des écarts sur l'indemnité de vie chère et l'augmentation des frais de logement. Le gouverneur intérimaire du Congo central, Justin Luemba, qui s'est rendu à Mwanda pour apaiser la tension entre employeurs et les grévistes, condamnent les actes de vandalisme qui ont été perpétrés par ces derniers. D'après lui, le travail a repris, mais les revendications des sous-traitants n'ont pas abouti jusqu'à présent. Néanmoins, ajoute-t-il, toutes les parties se sont mises d'accord pour que la paix sociale revienne. Le président de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo appelle les notables et les habitants du groupement d'Nguma au calme. Appel lancé ce week-end lors d'un point de presse à Kinshasa. Les chefs Wilbert Kyungu et Labi Mukosu ont été désignés comme modérateurs attitrés pour la direction du débat d'intronisation du nouveau chef coutumier du groupement d'Nguma dans la commune de Maluku à l'absence du chef Moussabou, décédé en 2020. Le chef Wilbert Kyungu s'est confié à Blaise Shindani Kambala.
Nguma, tous les notables, Munoko, Muko, population, vous attendez votre chef à son trône. Et ça a vraiment duré plus de 3 ans sans voir votre chef de groupement. Vous avez soif de voir le chef de groupement. Mais c'est la politique qui faisait tout cela. C'est ça pourquoi je suis là. Et je vous demande qu'il y ait calme. Machette, nous allons organiser tout d'abord avec les autorités et après on va venir là-bas. Et je demande aussi les conseils d'État. Je voudrais vous revenir parce que je vous avais dit qu'il faut que je sois ensemble avec les IK, mais il n'y a pas l'entente convenable avec les IK. C'est pourquoi je dois encore retourner au conseil d'État pour donner l'orientation. IK, il sera quoi? Qui arbitre, il sera qui? À ce moment-là, nous allons travailler sur l'ordre des conseils d'État. Parce que dans ce sens-ci, je vois qu'il y a un danger.
Actualité internationale.
En République centrafricaine, le Premier ministre Henri-Marie Dondra a été dému et remplacé par le ministre de l'Économie nationale, Félix Moloi. Il a démissionné 8 mois après avoir été nommé par le chef de l'État. Il a été nommé chef du gouvernement par le président Faustin Archange Touadéra dans ce pays en guerre civile depuis 2013. En Tunisie, pendant ce temps, la police nationale a encerclé depuis ce matin le Conseil supérieur de la magistrature à Tunis pour en empêcher l'accès. Cette mesure fait suite à la décision qui a été prise par le chef de l'État de dissoudre cette instance judiciaire, une instance judiciaire qu'il accuse de corruption, de partialité et d'être infiltrée par ses opposants politiques. Et puis le président français Emmanuel Macron a dit ce lundi après-midi qu'il espérait amorcer une désescalade dans la crise russo-occidentale au sujet notamment de l'Ukraine. C'était lors d'un entretien au Kremlin avec son homologue Vladimir Poutine. Objectif affiché selon lui, éviter la guerre et construire les éléments de confiance, de stabilité et de visibilité pour tout le monde. De son côté, le président russe Vladimir Poutine a salué les efforts consentis par le président français pour régler la question de la sécurité en Europe.
L'invité.
Notre invité, c'est le directeur de programme du groupe d'études sur le Congo, Joshua Walker, revient sur les rapports dans lesquels son organisation parle du rôle de l'État dans la gestion des conflits coutumiers dans la région du Kasaï. Il s'entretient avec François Kadima.
Monsieur Joshua Walker, bonjour.
Bonjour.
Gouverneur du Kasaï, État, coutume, territoire, identité. Pourquoi GIEC a résolu de s'intéresser à la question du Kasaï?
Bon, le GIEC a commencé à s'intéresser à la question du Kasaï d'abord en 2018 avec un rapport sur le conflit Kamuina-Nsapu. Et nous avons commencé un autre projet en 2019 qui s'appelait Kwetukundela, justement qui faisait le suivi des évolutions politico-sécuritaires dans la région du Kasaï et principalement dans les provinces du Kasaï et du Kasaï central. Alors comme nous savons, le phénomène Kamuina-Nsapu était parti d'abord d'un problème coutumier. Nous nous sommes dit que ce serait intéressant de comprendre les dynamiques des différents conflits coutumiers dans l'espace Kasaï.
Alors, qu'est-ce qui résulte de ce rapport?
Nous avons pris 3 études de cas que nous considérons emblématiques dans la matière, notamment le groupement de Kambaono, les localités de Kakeng et de Bakwakenge et le secteur de Dibataï dans la province du Kasaï central. Ce que nous avons découvert, c'est que de un, il y a pas mal parfois de rôles contre-productifs par l'État dans les conflits coutumiers, d'autant que parfois l'État laisse faire simplement, de par ce fait, laisse parfois l'ingérence des hommes politiques dans les affaires coutumières. À côté de cela, nous avons aussi constaté les séquelles de la façon dont le pouvoir coutumier avait été organisé par le pouvoir colonial, notamment avec la création de groupements, de secteurs et de chefferies, et la façon dont ces organisations peuvent aussi conduire à des disputes coutumières.
Vous relevez ici l'ingérence politique. Quels sont les mécanismes mis en place pour permettre aux politiques de comprendre qu'il est très important de résoudre cette question?
Bon, je pense que d'abord, il doit y avoir une prise de conscience générale que c'est pour le bien de tout le monde d'éviter l'ingérence politique dans les affaires coutumières. Et nous, de notre côté, dans le rapport, nous avons recommandé d'abord que la gestion des conflits coutumiers se fasse donc par les structures appropriées, c'est-à-dire par les CCRCC et aussi par les assemblées provinciales, notamment les commissions PAJ des assemblées provinciales, qui sont parmi les structures habilitées à gérer et à régler les conflits coutumiers. Nous pensons également que l'une des choses très importantes qui devrait être faite pour améliorer les conditions dans les affaires coutumières, c'est de renforcer les capacités et l'indépendance de l'Institut géographique du Congo, qui permettrait notamment à ce que les limites, surtout entre les groupements, soient très bien définies et de manière consensuelle entre toutes les parties, de sorte que ça ne reproduise plus des conflits qui sont à la fois coutumiers et fonciers.
Mais ne pensez-vous pas que la responsabilité est partagée entre l'État et les chefs coutumiers? Parce qu'au niveau de la succession dans les familles, il y a le même problème quand on ne reconnaît pas tel dans la famille.
Bien sûr, les conflits autour de la succession sont des conflits qu'on peut appeler peut-être ordinaires. Ce sont des choses que l'on a vues depuis très longtemps et ce n'est pas du jour au lendemain que ça va s'arrêter. Mais nous pensons que, justement, donc oui, la responsabilité peut être partagée entre l'État et les chefs coutumiers, mais c'est cette ingérence de l'État qui, souvent, lorsqu'elle ne se fait pas de manière correcte, amplifie les conflits. Alors que souvent les conflits dits ordinaires pourraient être résolus d'abord au sein des familles régnantes ou bien avec l'apport d'autres chefs coutumiers des localités voisines.
À ce jour, vous pensez qu'il faut impliquer les autorités au niveau du gouvernement central. Alors comment pensez-vous impliquer les autorités au niveau du gouvernement central?
Bon, nous mettons ce rapport à la disposition de tout le monde, du public congolais en entier, y compris tous les acteurs. Maintenant, nous considérons qu'avec cette analyse que nous fournissons, c'est la responsabilité de la population congolaise et des différents acteurs de réagir et de tirer les leçons de ce rapport. Bien sûr, nous faisons des recommandations, mais nous estimons que ce n'est pas le travail du GIEC d'aller vers les acteurs pour faire un plaidoyer.
Alors, vous pensez que c'est une voie de solution, ce que vous proposez aujourd'hui?
Nous pensons que ça fait partie des solutions, mais comme le GIEC a, entre autres, pour mission de stimuler le débat au sein du Congolais, au sein de la société congolaise, c'est la raison pourquoi nous sommes venus ici pour débattre justement de ce rapport avec les différentes couches de la société pour connaître aussi leur avis sur ce que nous avons dit. Et ensemble, nous pensons qu'à travers ce débat, il peut y avoir des solutions qui sont relevées.
Monsieur Joshua Walker, nous vous disons merci.
Merci à vous.
C'était l'invité de Radio Okapi, le directeur de programme du groupe d'études sur le Congo. Joshua Walker était interviewé à Kananga par François Kadima. Et c'est la fin de cette édition d'information sur Radio Okapi. Merci d'avoir écouté. Infiniment merci à Pélékipé Lamondo qui m'a accompagné. Retrouvez cette édition sur www.radiookapi.net.